Bonsoir à tous, bienvenue à chacun. Alors, on est heureux, comme d'habitude, de vous accueillir au cours Biblos. Donc, ce soir, on va traiter le monde invisible. Perso, je pars de zéro. Je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, on espère pouvoir être plus éclairé. Et je vais remettre ces instants au Seigneur pour qu'il puisse ouvrir notre cœur et notre intelligence. Bonne soirée à chacun. Seigneur, on te remercie, tu vois, pour ce que tu nous accordes de passer encore ces moments, tu vois, à observer ce que ta parole a à nous enseigner sur ce monde invisible, tu vois, avec les créatures célestes, les créatures infernales. Nous te demandons de permettre que nous puissions réaliser qui tu es, ce que tu veux nous dire par elle, et tu vois, que nous puissions toujours mieux te connaître et comprendre ton plan d'amour pour nous. Donc, nous désirons aussi te remettre Gilles, nous te demandons de l'accompagner et d'accompagner aussi la technique ce soir. Nous te demandons de permettre que là aussi tout se passe dans les meilleures conditions et que ce soit pour ta gloire. Dans ton nom précieux. Amen.
Alors, bonsoir à tous et puis merci d'être là. Puis c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce sujet, tout à fait particulier, un peu difficile, en ce sens que, d'abord, il y a toujours un combat justement de nature spirituelle quand on veut parler de ce sujet, quand on s'y expose comme ça, c'est certain que. Moi, personnellement, en tout cas, je réclame la protection du Seigneur. Je me mets à l'abri du Seigneur, parce que franchement, c'est vrai que ouais, c'est un sujet qui est compliqué et qui peut susciter des contre-coups spirituels. Et puis aussi, parce que la Bible n'en dit pas autant peut-être que notre curiosité voudrait le savoir ou en savoir plus peut-être. Alors voilà. Ce sujet que nous allons étudier ensemble est la doctrine des anges et des mauvais esprits, qu'on appelle aussi démons. Et pour cette doctrine, nous allons la regarder d'un point de vue synthétique, c'est-à-dire en tenant compte de ce que l'ensemble de la révélation progressive de Dieu dans la Bible nous dit à ce sujet. Et à nouveau, cette semaine, ce n'est pas nécessaire d'utiliser les notes de cours qui sont très complètes et il n'y a rien à ajouter en particulier, mais vous êtes libre, bien sûr, de prendre vous-même d'autres notes à côté ou même sur les feuilles elles-mêmes. Alors voilà, la présentation sera complète et puis par la suite, en joignant le PowerPoint aux notes, vous allez vraiment avoir quelque chose de très complet pour couvrir ce sujet-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couvrir les grandes lignes, survoler les grandes lignes de cette doctrine, puis nous tenterons de répondre à certaines questions qui peuvent préoccuper les chrétiens. Mais d'abord, j'aimerais dire un mot à propos du titre que j'ai donné à ce cours-là. Donc, que doit-on savoir à propos du monde invisible? Et j'ai vraiment mis en gras, en couleurs différentes, rouge, pour insister sur doit-on savoir? Parce que, en fait, cette question-là, elle est réfléchie. Je pense que les chrétiens et peut-être même les hommes, d'une manière générale, ne sont pas appelés à tout savoir à propos du monde invisible. Et d'une manière particulière, il faut éviter la curiosité dans ce domaine et chercher uniquement à découvrir ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Autrement, les conséquences peuvent être graves, voire même dangereuses dans certains cas. Donc, c'est très important qu'on réfléchisse à cette question. Que doit-on savoir? Ce qui implique qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir et que Dieu n'a pas jugé bon de nous révéler dans les Écritures. En fait, on est appelé à un équilibre dans ce domaine d'une manière vraiment particulière. Vous connaissez peut-être ce grand auteur C.S. Lewis qui a écrit ceci. Nous sommes portés à commettre au sujet du diable ou de ses envoyés deux erreurs opposées mais d'une égale gravité. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à leur porter un intérêt excessif et malsain. Et c'est tiré de l'ouvrage traduit en français Tactique du diable. Nous le trouvons édité en français, donc dans les éditions Delachaux et Niestlé. Donc, cette citation représente une erreur qu'on voit encore aujourd'hui dans l'Église, malheureusement, des gens qui ne tiennent pas du tout compte du monde spirituel comme si ça n'existe pas, ou alors des gens qui y portent une trop grande attention, et même d'une manière excessive. Alors, nous voulons éviter ces deux extrêmes et c'est le pourquoi de ce cours ce soir. C'est de nous donner une vision équilibrée, de voir ce que la Bible dit, ce qu'elle ne dit pas, et de nous limiter à cette connaissance et de comprendre par la suite de quelle manière on doit réagir de façon pratique à la connaissance que nous avons et que la Bible nous donne du monde invisible. Très important d'avoir cet équilibre, en particulier dans ce domaine-là. Dans ce cours, je ne vais pas m'arrêter sur certaines questions qui sont plutôt techniques, comme par exemple les différentes catégories d'anges qu'on trouve dans les Écritures, soit les chérubins, les séraphins, les archanges, les principautés, etc. Il y a beaucoup d'autres noms aussi qui se réfèrent au monde spirituel ou au monde invisible ou alors aux anges. Eh bien, on ne va pas porter une attention particulière sur ces détails parce que vous pouvez trouver toutes ces informations dans les ouvrages qui vous seront recommandés à la fin du cours. Et en fait, j'ai voulu consacrer le maximum de temps à des questions qu'on aborde très peu en général quand on couvre la doctrine des anges. On parle souvent des séraphins, de leurs caractéristiques, des chérubins, etc. Mais en bout de ligne, je ne suis pas convaincu que ça nous apporte quelque chose de plus dans notre vie chrétienne de tous les jours. Alors là, je me suis dit, ce sujet-là, il est délicat, il est sensible, il faut qu'on aille le plus rapidement possible et le plus en profondeur possible dans l'aspect pratique de la vie chrétienne de tous les jours. Alors, vous trouverez tout le reste qui demeure certainement d'un grand intérêt, mais dans les ouvrages qui vous sont proposés à la fin du cours. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord explorer les grandes lignes de la doctrine des anges et puis mettre ensuite l'aspect sur certains aspects pratiques qui sont en lien avec la vie chrétienne et ce, au moyen de questions. Donc, je vais vous proposer des questions auxquelles aussi je vous suggérerai une réponse. Allons-y d'abord avec les grandes lignes de l'angélologie, c'est-à-dire la doctrine des anges. Nous allons voir trois points principaux dans ces grandes lignes et je les divise ainsi. Premièrement, nous allons parler de la création des anges avant Genèse 1. Ensuite, nous allons voir la révolte des anges après Genèse 2. Et nous verrons finalement dans les grandes lignes le rôle des anges, bons et mauvais, à partir de Genèse 3. C'est la structure que je vous propose pour la première partie de ce cours qui va nous amener à la pause suivie d'une période de questions. Allons-y donc avec le premier point, la création des anges avant Genèse 1. La Bible est très claire là-dessus et affirme que les anges sont une création de Dieu par Jésus-Christ, comme Paul d'ailleurs le souligne dans ce passage des Colossiens chapitre 1 verset 16, et nous lisons ensemble, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui a créé tout le monde invisible. Et ce monde a été créé par lui et pour lui. Donc, il est arrivé quelque chose en cours de route, bien sûr, qui change cette donne. On le verra avec la chute des anges déchus, hein? Mais voilà, au départ, tous les anges ont été créés pour lui et cela suggère pour sa gloire, bien entendu. Pardon. C'est aussi ce qu'on dit des Lévites en prière à l'époque de Néhémie. Donc, il y avait la même pensée ou semblable à celle de Paul. On lit ceci dans Néhémie 9, verset 6. Tu es le même, toi seul, ô Éternel, tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elle, Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Quel beau passage! Et remarquez la structure de ce verset. Dans ce verset, il est question d'un endroit, puis de ce qui s'y trouve dans cet endroit, en fait, ce qu'il y a là. Donc, le texte parle de la terre et de la mer et de ce qu'il y a en elle. Donc, sur la terre et dans la mer. Mais encore, on voit aussi que le texte parle des cieux, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Hein? C'est la première expression, tu as fait les cieux, ça c'est ce qui est au-dessus de nos têtes. Mais tout de suite après, il est dit, et les cieux des cieux. Et probablement que c'est une référence ici au royaume de Dieu. Et là, dans les cieux des cieux, il y a les armées des cieux qui adorent, comme on le voit dans ce texte-là. Il est donc très certainement question ici des anges créés pour la gloire de Dieu, pour l'adorer dans le ciel. Ce sont des êtres personnels qui adorent Dieu dans son royaume. Et puis, il y a un passage suite à cela qui nous apprend que les anges étaient présents lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. En fait, lors de la création, les anges, ils étaient des spectateurs. Ils ont pu contempler l'œuvre de Dieu dans la création et ils ont chanté de joie. D'ailleurs, ça, c'est un des très rares textes qui parle du chant des anges, parce que en général, le chant est un privilège qui est réservé aux rachetés. Mais ici, franchement, ce texte-là, il est indéniable. Alors, ceux qui m'ont déjà entendu dans les années passées, vous voyez que j'ai un petit peu modelé ou modéré ma pensée à ce sujet. Mais quand même, c'est vrai que c'est dominant, le chant chez les rachetés, mais ce texte-là est sans équivoque. Donc, c'est Job 38, versets 4 à 7, et on les lit ensemble. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? C'est Dieu qui converse avec Job, bien entendu. Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Et regardez la suite. Bon, on comprend que tout le langage d'avant, c'est un langage figuré, hein? Ce n'est pas une description réelle de comment la terre se tient par elle-même, etc. Mais c'est un langage poétique qui montre que la terre est l'œuvre du Dieu créateur. Mais la suite du verset. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Là, nous avons dans ce verset 7 deux lignes qui sont parallèles. Donc, c'est un bel exemple de ce qu'on appelle le parallélisme hébraïque. Donc, la seconde ligne va nous aider à mieux comprendre la première ligne. Voilà, c'est présenté maintenant, vous le voyez au PowerPoint, avec le texte décalé pour aligner les phrases qui sont parallèles dans ces deux lignes. Donc, on voit très clairement que les étoiles du matin correspondent aux fils de Dieu et l'expression « ils chantaient ensemble, ils éclataient de joie », ça va exactement dans le même sens aussi. Donc, ces deux lignes-là sont parallèles et nous donnent un regard, une vision un peu différente sur un même phénomène, en fait, c'est que les anges, ils ont explosé de joie, de chant, de louange à la vue du Dieu créateur de tout ce qu'ils faisaient. Et donc, dans ce contexte-là, puisque les fils de Dieu sont déjà là lorsque Dieu crée la terre, et donc crée la terre et tout ce qui s'y trouve, incluant l'homme aussi, il est clair qu'ils ne sont pas des hommes. Donc, les fils de Dieu ici sont clairement des êtres célestes ou spirituels, et donc on peut dire des anges. Alors, on le voit très bien que les fils de Dieu peuvent être parfois des anges dans le texte biblique selon le contexte. Avant même la création de la terre et des cieux, et des hommes évidemment, Dieu avait donc créé des êtres angéliques. Et nous allons voir maintenant ce que la Bible nous dit quant à la nature même de ces êtres angéliques. On lit dans Hébreux 1, verset 7, et là j'ai cité la Nouvelle Français Courant, c'est l'abréviation qui est là. C'est une citation du psaume 104, verset 4, qui nous dit ceci. Dieu fait de ses anges des vents ou esprits. En fait, esprit, ça c'est moi qui le rajoute, hein. C'est pas dans le texte de la Nouvelle Français Courant. C'est que le mot roua en hébreu ou pneuma en grec, en fait, les deux sens sont reconnus pour ces deux mots-là, hébreu et grec, c'est-à-dire vent ou esprit. Et non seulement Dieu a fait ses anges des vents, mais aussi de ses serviteurs. Et c'est encore un parallélisme hébraïque ici, dans un sens. Les serviteurs sont les anges aussi, des flammes de feu. Donc, on a une double métaphore qui nous parle de la nature même des anges, et probablement que ce texte-là nous indique en quelque sorte leur capacité, ou peut-être même, selon certains commentateurs, la rapidité avec laquelle ils exécutent ce que Dieu leur confie. Alors, c'est dans la nature des anges d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu leur demande. C'est ce que souligne ce texte-là ici, autant dans le psaume 104 original que dans la citation du texte d'Hébreu. Et toujours en lien avec la nature des anges, ils sont en général invisibles, mais comme on lit dans le texte ici, mais ils peuvent se rendre visibles sous une forme humaine, et c'est toujours celle d'un mâle, tout le temps. Un exemple va suffire, mais il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. On pense à Marc 16, verset 5. Et étant entrés dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit. C'est tellement précis, on sait que c'est un ange qui était là. Par le contexte et puis par les parallèles dans les évangiles synoptiques. Et puis voilà, on voit très clairement que c'est un ange, ça, il n'y a aucun doute, mais il est décrit sous une forme visible comme étant un mâle, un jeune homme dans ce passage-ci. Il y a un texte dans Zacharie 5, verset 9, qui a parfois été interprété comme si il s'agissait d'une apparition angélique, mais cette fois-ci, sous forme de femme. Et ce serait, si c'est le cas, ce serait le seul passage qui va dans ce sens. Zacharie 5, verset 9, vous l'avez sous les yeux. Et je levai mes yeux et je vis, et voici deux femmes sortir, et le vent était dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Mais ici, ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas une apparition angélique dans ce passage, mais plutôt une vision symbolique. Donc, c'est différent. Ce n'est pas une apparition d'ange sous forme de femme, mais dans la vision, oui, symbolique que Zacharie a eue, ben, il a vu sous l'apparence ces femmes, sous cette apparence, donc, qu'il décrit maintenant. Sinon, ce serait vraiment le seul cas d'une apparition d'ange sous forme de femme. Le point, ce n'est pas d'être misogyne, là, vous comprenez certainement bien. C'est la parole de Dieu qui a choisi que ce soit comme ça pour révéler les anges, que c'est sous forme d'homme mâle. Maintenant, on voit dans les Écritures que les anges peuvent même interagir parfois avec les hommes. Et certaines de ces interactions peuvent être troublantes un peu pour certains. On voit qu'ils peuvent manger. Donc, j'ai noté, entre autres, là, ces textes de Genèse 18 et 19, où Abraham va avoir un repas, partager un repas. Ils mangent littéralement, hein, donc, dans leur apparition humaine avec des corps d'hommes mâles, ben, les anges avaient probablement un estomac, une bouche, etc., parce qu'ils mangent avec lui. Donc, ça nous dépasse un peu parce qu'on se dit, mais on sait bien que c'est, on ne peut pas décrire ça comme un phénomène d'incarnation, au même titre que Jésus, par exemple, qui devient littéralement un homme comme nous. Mais bon, dans quelle mesure les anges sont des hommes et ils ont un système digestif là, dans ce passage, hein, il me semble que c'est assez clair. Mais quoi qu'il en soit, même si ça dépasse notre compréhension, pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, les anges peuvent apparaître sous forme visible d'hommes et peuvent même manger, ils peuvent toucher quelqu'un. Ben ça, c'est un ange dans Acte 12 qui a secoué Pierre un peu, qui était endormi, puis lui a donné un coup dans le côté. Un coup là, que Pierre a ressenti, là, assez pour ouch, c'est quoi ça? Et ça l'a réveillé, là. Ça, c'est un peu troublant. Tu dis, OK, il y a un ange qui te touche, là, ça doit être assez particulier, ça. Ben voilà, faut dire aussi que Pierre le voyait, hein? Donc, c'est pas comme si quelque chose avait touché, puis il était comme sans indication, sans indice de ce qui venait de passer. Là, ce serait une expérience qui serait pas mal plus traumatisante, à mon sens. On voit aussi que des anges ont pu être logés chez des personnes sans qu'on le sache. Ici, la plupart des commentateurs dans Hébreux 13 pensent que le quelqu'un en question, c'était Abraham qui a logé des anges chez lui, ou peut-être Lot même, mais il semble qu'ils avaient quand même une certaine connaissance de ce qui se passait. Donc, peu importe, Il y a quelque chose qui est hyper important à souligner avec le point qu'on vient de parler. Et là, vraiment, je fais une mise en garde très importante. Ces expériences-là, le fait qu'un des anges se manifeste avec des hommes et mange avec eux, touche à quelqu'un, peuvent être logés sans qu'on le sache. Tout cela est rapporté dans la Bible. Mais la Bible ne nous dit pas de nous attendre à vivre de telles expériences. Elle ne nous encourage pas non plus à chercher à vivre de telles expériences. Et c'est là que souvent il y a problème chez certains croyants. Ils pensent que les événements ou les expériences décrites dans la Bible sont des normes, sont des modèles à reproduire ou qu'on devrait s'attendre à ce que ça arrive pour nous aussi. Or, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas. La Bible rapporte ce qui s'est passé dans le cadre d'un Dieu qui se révèle progressivement et qui appuie sa révélation progressive par des expériences extraordinaires. Mais c'est loin d'être la norme et jamais dans la Bible, à ma connaissance, on est encouragé à chercher à vivre ces expériences-là et à les désirer même. Donc, pas du tout. La Bible ne fait que nous les rapporter, nous montre que Dieu est un Dieu souverain, qu'il peut certainement faire de telles choses encore aujourd'hui. Je n'ai aucun doute là-dessus, puisqu'il est Dieu et ne change pas. Mais par contre, c'est trop facile de dire ça en s'imaginant que parce que Dieu ne change pas, il va le faire. Hein? Il est obligé de le faire. Il ne change pas. Alors, il va encore le faire aujourd'hui. Non, 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 mais pas du tout. On n'y est pas si on pense comme ça. Même, par exemple, au niveau des miracles, là, puis je fais une petite parenthèse. Tu sais, les miracles, il y a des périodes de miracles dans la Bible, mais les miracles sont loin d'être la norme. Et alors moi, je reconnais pleinement les miracles. Là, je ne suis pas un rationaliste ou un sadducéen, n'ayez pas peur. Je crois aux miracles, absolument. Je crois aux interventions surnaturelles de Dieu, absolument. Je crois qu'il peut le faire encore aujourd'hui, absolument. Mais je note que dans sa révélation progressive, Dieu fait des choses et c'est pour appuyer en général sa révélation. Et c'est loin d'être pour épater les gens ou alors pour constamment leur donner des preuves de son existence. Il n'a pas à faire ça. On a la parole de Dieu en plus aujourd'hui. Mais voilà, il pourrait le faire, mais jamais la norme n'est pas établie comme ça. Et il y a des périodes de miracles. Il y en a cinq grandes périodes de miracles dans l'Écriture. Et puis, on les note très, très bien. C'est des miracles qui accompagnent, des signes miraculeux qui accompagnent l'œuvre de Dieu dans la rédemption et dans sa révélation progressive, mais n'avait jamais pour but d'établir une norme. C'est hyper important de retenir ça. Je continue sur la nature des anges maintenant. Ils sont plus forts que les hommes. Il y a des textes qui le soulignent. Je ne vais pas aller dans ces passages parce que le temps va nous manquer, mais on le voit dans le psaume, dans 2 Pierre. Ils sont plus sages aussi. Ils n'ont pas la nature pécheresse qui réduit leur réflexion ou amoindrit leur pensée. Ils sont directement en contact avec Dieu. Donc, c'est évident que les anges, ils sont plus sages. Et puis, la Bible nous dit aussi d'une manière pour nous enseigner, nous instruire des choses qu'ils ne se marient pas et ne meurent pas. Et en fait, ces deux choses-là sont beaucoup plus pour notre instruction sur l'éternité que sur la nature des anges. Mais ça reste très intéressant que la parole de Dieu nous donne de tels détails. Donc, on peut dire certainement ensemble que les anges avaient une condition et une position vraiment unique. Mais malgré tout, malgré cela, un très grand nombre d'anges se sont révoltés contre Dieu. Mais comment ça peut être possible? Ça, c'est un phénomène qui me dépasse totalement. Et ce sera l'objet de notre prochain point. La révolte des anges, elle se situe après Genèse 2, donc après la création, parce que les anges, ils étaient tous là à la création, ils ont chanté, ils ont éclaté de joie, ils étaient heureux de voir le résultat de la création. Quelque part, après Genèse 2, il est assez clair que malgré cette réjouissance première, il y a plusieurs anges qui se sont révoltés contre Dieu, donc après la création et aussi avant les événements du chapitre 3 de la Genèse qui vont nous présenter la chute de l'homme dans le péché. Donc, qui sera maintenant, le péché va entrer dans le monde, mais le péché est déjà entré dans le monde invisible. Mais là, il va entrer dans le monde visible par la chute d'Adam et Ève. Et apparemment, Le premier ange qui s'est révolté contre Dieu, c'est un chérubin qui jouissait d'une position très élevée dans le ciel, et on parle bien sûr du diable ou de Lucifer. Donc, il est appelé comme ça, Lucifer, et ce nom-là, si vous voulez le savoir, vient de la traduction latine, la Vulgate, faite par Jérôme, 4e, 5e siècle. Donc, Jérôme a choisi ce terme, Lucifer. Dans Ésaïe 14, verset 12, là où on trouve l'expression dans nos Bibles en général, traduit par l'astre brillant. Et dans ce passage d'Ésaïe 14, 12, astre brillant a été traduit par Jérôme en latin par Lucifer. C'est un mot qui signifie celui qui porte la lumière. C'est assez bizarre comme titre ou nom pour Satan parce qu'il porte plutôt les ténèbres. Mais voilà, il est menteur. Alors, il prétend porter la lumière. Il est l'astre brillant d'Ésaïe 14, 12. Nous le connaissons beaucoup mieux sous le nom de Satan. Mais juste une petite parenthèse sur la motivation de Jérôme de traduire par Lucifer, et sachant que Lucifer devient un nom connu de Satan dans toute l'histoire de l'Église, il est assez clair que Jérôme, déjà à cette époque, considérait que Ésaïe 14 allait beaucoup plus loin que le roi de Babylone, mais considérait un personnage plus grand derrière qui l'animait probablement et que c'était le diable lui-même. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que nous allons bientôt afficher là un texte que je vais vous présenter. Je veux dire aussi d'abord, avant de présenter la citation, que la révolte de Satan, elle est... C'est difficile à dire ainsi parce que c'est un être spirituel, donc il n'est pas un être humain comme nous. Mais cette révolte s'est faite dans le cœur. Donc, je ne veux pas lancer un débat à savoir si Satan a un cœur, ce n'est pas le point, là. C'est juste une façon de dire que cette révolte-là, elle est quand même née dans son for intérieur. Elle est née à l'intérieur de lui, dans l'orgueil, le péché d'orgueil terrible. Et maintenant, pour appuyer ce que je dis, permettez-moi de citer un article que j'ai déjà rédigé pour la revue Promesse, qui répondait bien à la question. Donc, je me suis dit, ben, ça, plutôt que de redire et ou chercher à redire dans d'autres mots, et en même temps aussi, si vous ne connaissez pas Promesse, ben, je me dis, c'est une belle occasion de vous faire connaître Promesse, puisque vous voyez l'adresse maintenant en dessous. Donc, lisons ensemble cette citation d'un article rédigé il y a quelque temps. Dans les livres des prophètes Ésaïe et Ézéchiel, on trouve deux passages qui s'adressent respectivement au roi de Babylone et de Tyr. Cependant, ces textes poétiques semblent également évoquer un personnage plus grand que ces deux rois eux-mêmes, c'est-à-dire un être spirituel qui les anime. Il s'agit alors sans aucun doute de Satan. Ésaïe 14, 12 à 14 parle de l'astre brillant. Voilà le nom Lucifer dans la Vulgate de Jérôme. Le fils de l'aurore tombé du ciel. C'est une expression tombée du ciel qui est utilisée aussi par le Seigneur Jésus dans Luc 10, 18 et appliquée à Satan. Quand Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est principalement le péché d'orgueil qui a causé la chute de Satan. Et là, vous remarquerez en lisant le texte plus tard les cinq prétentions dans les versets 13 et 14 d'Ésaïe 14. Donc, ce sont des phrases qui débutent toutes avec je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, cela. C'est ce qui nous prouve que, en fait, c'est un péché d'orgueil qui était dans le cœur ou le for intérieur de Satan à ce moment-là. Le passage d'Ézéchiel 28, 13 à 16 présente un cas semblable. La chute de Satan dans ce contexte est une manière de décrire sa rébellion contre Dieu dans le ciel, dans une représentation hautement symbolique, mais parfaitement claire. Apocalypse 2, versets 3 et 7, démontre que Satan a entraîné le tiers des anges dans sa révolte. C'est assez impressionnant. Moi, ce que je pense qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ces deux textes-là, bien qu'ils soient poétiques et que le texte de Apocalypse soit très figuré, très imagé, les images sont assez claires. Et je crois qu'on peut tirer la conclusion que les anges ont été créés avec la possibilité de choisir d'obéir à Dieu ou non, et probablement pendant une période déterminée. Bon, maintenant, je sais que les anges, étant des êtres célestes ou spirituels, sont en dehors du temps, mais c'est simplement une façon pour nous d'essayer de comprendre. Je n'ai pas la prétention de comprendre tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et dans quel délai ça s'est passé. Surtout que moi, je suis limité par le temps et l'espace et pas eux. Mais de toute évidence, l'expérience de la révolte angélique est un événement unique et pas répétitif. Je pense que c'est ce qu'on peut déduire de ce passage-là d'Apocalypse 12, versets 3 et 4. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le langage symbolique de l'Apocalypse est très clair ici. D'ailleurs, l'expression étoile au sens figuré dans l'Apocalypse pour désigner des êtres personnels est très souvent des anges. Ça ne fait aucun doute. C'est parfaitement clair dans beaucoup d'autres textes. Si vous avez suivi le cours de Biblos sur Apocalypse, vous le savez bien. Alors voilà, ce texte-là nous montre que Satan a entraîné apparemment le tiers des anges. C'est beaucoup quand même, c'est vraiment impressionnant. Donc, dans sa révolte. Et ces anges-là qui se sont révoltés, eh bien, ils sont appelés en général par la suite dans les Écritures, ou bien des démons, ou des mauvais esprits, ou des esprits impurs. Mais ils peuvent également être appelés, comme on le voit ici, des fils de Dieu, en ce sens qu'ils ont été créés par Dieu. Et ce sens-là apparaît clairement dans Genèse 6, que nous allons voir dans quelques instants, et dans Job 1 et 2, c'est-à-dire les chapitres 1 et 2, où on voit deux scènes dans le ciel où Satan se présente et les fils de Dieu sont là avec lui. Il y a des commentateurs, dont MacArthur, il me semble, qui pensent que les fils de Dieu sont des bons anges dans ce passage de Job et que Satan y vient hypocritement parmi les bons anges. C'est possible aussi, en fait. Je ne peux pas être dogmatique à ce point là-dessus. Mais en tenant compte, en fait, de Genèse 6, oui, c'est possible que dans Job, ce soit plutôt des démons, en fait, des esprits impurs, des anges déchus. On ne sait pas à quel moment précis cette chute s'est produite, mais elle arrive très clairement après la création et avant le chapitre 3 de la Genèse. Parce que quand on entre dans le chapitre 3 de la Genèse, Satan a déjà pris possession d'un serpent qui était un animal différent de celui qu'on va voir après la chute. D'ailleurs, on voit très bien là qu'il y a des changements sur cet animal dans le chapitre 3, verset 14. Cet animal reçoit la faculté de parler, une permission que Dieu accorde, et le diable va se servir de ça pour séduire Ève et l'amener à pécher, de même aussi, on le sait bien, que son mari Adam. Donc, la suite de la révélation progressive de Dieu va nous faire connaître le rôle des anges, que ce soit les bons anges et les mauvais anges, dans différents domaines et aussi sous différents aspects. Et ça, ce sera l'objet de notre prochain point, le troisième et dernier point dans ce survol global. Donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes. Je ne pouvais pas tous les passer, c'est pas possible. Mais je vais quand même aborder la question du côté des mauvais anges et puis des bons anges aussi par la suite de façon très, très sommaire. Et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver toutes les infos dans les ouvrages de théologie systématique. On peut dire que tous les anges, sans exception, et même les mauvais, là, on peut certainement dire qu'ils servent tous à l'accomplissement des plans éternels de notre grand Dieu souverain. Ça, c'est un point qui est certainement difficile à comprendre pour nous. Mais tous les anges, bons et mauvais, servent au plan éternel de Dieu. Dieu est au contrôle, hein? Rien n'échappe à son contrôle. Alors, depuis la chute, que ce soit celle du monde invisible ou celle de l'homme, l'être humain, eh bien, le monde spirituel mauvais, avec le diable en tête, s'est constamment opposé à Dieu et à tous ceux qui appartiennent à Dieu. D'ailleurs, le nom Satan signifie adversaire et ça le décrit très, très bien parce que c'est ce qu'il est devenu dès le moment de sa chute, un adversaire de Dieu, un adversaire des hommes, les croyants en particulier, mais des hommes en général aussi. Et puis, quand on lit dans 1 Jean 3, verset 12, on apprend que Caïn était du malin. Donc, Caïn était du malin et il tua son frère. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, c'est de toute évidence ce qu'on pourrait appeler un effort satanique de détruire la postérité humaine dès le départ. Donc, Genèse 4, ça vient rapidement, un premier meurtre. Et puis Abel, qui représente la tête de la lignée de la promesse, quoi, ben, il est tué par Caïn, qui lui était du malin. Donc, ça fait aucun doute que c'est un effort de Satan de détruire. Il s'oppose à Dieu. Alors, il veut certainement détruire et empêcher la réalisation des promesses de Dieu. On trouve un effort satanique semblable au chapitre 6 de la Genèse quand on lit ceci. Les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Il me semble que ce passage est en train de nous décrire un autre effort satanique après celui du meurtre d'Abel, un autre effort satanique pour corrompre ou détruire la race humaine et comment ils ont fait ça en ayant des relations sexuelles avec les filles des hommes. On a deux textes très clairs dans la révélation progressive de Dieu qui expliquent ce passage et qui le commentent d'une façon vraiment remarquable. Le premier texte se trouve dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. On lit ceci. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. Or, on voit dans ce passage qu'il y a des anges, pardon, qui ont péché et que ces anges-là, ils sont enchaînés pour tout le temps. Ils attendent leur jugement. Donc, on ne peut pas savoir immédiatement avec ce contexte, mais en fait, si on allait plus loin dans Pierre, on le verrait aussi. Mais Jude, qui est le passage parallèle de ce texte-là, est très, très, très clair. Et c'est pourquoi j'ai plutôt choisi d'aller vers ce passage-là pour compléter le portrait de ce qui se passe dans Genèse 6. Dieu a réservé dans des liens éternels, sous l'obscurité, on voit des mots semblables, pour le jugement du grand jour, les anges, et regardez ce qui est dit au niveau des anges, qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et là, on va voir une comparaison. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour s'étant abandonnées à la fornication de la même manière que ceux-là et étant allés après une autre chair. Maintenant, vous voyez l'expression à la fin du verset que ceux-là ici, ce sont les anges. Donc, à Sodome et Gomorrhe, on a péché d'un péché d'une nature semblable à ce péché commis par des anges. Donc, ça fait très clair que le péché angélique dont il est question est de nature sexuelle. Ça, c'est sans aucun doute. Mais j'aime la façon de dire les choses de Jude qui clarifie encore plus, parce qu'il dit, étant allé après une autre chair. Donc, à Sodome et Gomorrhe, on est allé vers l'homosexualité, c'est le péché qui est décrit dans ce passage. Et donc, il y avait quelque chose de contre-nature dans ce péché sexuel. Eh bien, c'est la même chose avec les anges. C'était contre leur nature ce qu'ils ont fait. Ils sont allés contre leur nature pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Et ainsi, c'est un effort satanique pour corrompre la race humaine. Maintenant, comment ça s'est passé? Il y a deux possibilités. Ou bien ces anges-là ont pris forme humaine. Bon, s'ils pouvaient manger, ça semble impliquer qu'ils avaient tout le même système d'organes que l'homme naturel a. Donc, ils avaient probablement aussi des organes sexuels. Dans le cas où ils sont apparus sous forme humaine ou pris des corps d'hommes, quoi, pour commettre ces péchés. Ou alors, et ça c'est la position de la plupart des conservateurs, je dirais, ils ont plutôt pris possession, donc dans le sens de contrôler pleinement des hommes mauvais qui ont couché avec ces femmes-là dans le but de corrompre la race humaine. Bon, que ce soit un cas ou l'autre, les anges eux-mêmes qui, je trouve que ça a du sens parce qu'on voit, ils n'ont pas gardé leur origine, ils ont abandonné leur propre demeure, ils sont carrément sortis de leur sphère à eux, là. Donc, la sphère angélique. Alors, voilà, c'est l'une ou l'autre des solutions, mais ils ont eu ces relations sexuelles et le but était certainement de corrompre. Pourquoi? Parce que la descendance humaine, la postérité de la femme, eh bien, Dieu avait prophétisé qu'elle écraserait la tête du diable, qu'elle triompherait de sa propre postérité. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans Genèse 3 à 15. Je mettrai inimitié entre toi, et là, il parle au serpent, et la femme, et entre ta semence, la postérité du diable, et sa semence, la postérité de la femme, et en particulier la lignée rédemptrice. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Alors, oui, le Seigneur est blessé à la croix, mais il triomphe et il a complètement écrasé le diable. Donc, on voit vraiment que dès le début dans la Genèse, c'est parfaitement cohérent cette interprétation parce qu'on a deux efforts sataniques puissants pour éviter en fait l'accomplissement de cette prophétie et donc empêcher qu'elle s'accomplisse en corrompant ou en éliminant ou en détruisant la race humaine, soit par le meurtre ou alors par le péché sexuel des fils de Dieu. Mais toute l'histoire humaine par la suite est marquée par cette opposition du monde invisible, méchant contre Dieu, contre son peuple et même contre les hommes en général, puisque Satan veut tout détruire. Et on va le voir même redoubler d'efforts lors de la première venue de Christ. Mais Jésus va triompher à la croix et son œuvre va sceller le sort du diable et aussi celui des démons. Parce que même si le diable a déployé toutes ses forces contre Christ pendant qu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus a triomphé de lui, en fait, à la croix, comme on le voit dans Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il ne fait aucun doute que ce texte-là se réfère au monde spirituel, invisible, angélique, mauvais, dont Satan est à la tête. Et non seulement cela, Jésus a triomphé de lui, il a brisé son pouvoir. Hein? C'est ce qui se passe quand on se convertit à Christ. Hein? On a aussi vaincu le malin avec lui, comme on le voit dans 1 Jean. Donc, on est associé à sa victoire. Mais son sort final nous est présenté dans l'Apocalypse 20, au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà ce que nous dit l'Écriture à ce sujet-là. Du côté des bons anges, et je vais terminer sur ce point-là, eh bien, du côté des bons anges, ils ont toujours été fidèles à Dieu et le servent de manière vraiment différente. Mais il y a trop de passages et j'ai découvert, oui, j'ai découvert, réalisé qu'il y avait un beau verset qui résumait l'ensemble du rôle des bons anges. Et je vous le présente maintenant, psaume 103, versets 20 et 21. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. C'est pas magnifique ce qui est dit ici. C'est merveilleux, ça. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Ah, franchement, je trouve que ce texte-là est suffisant. Il résume ce que sont les bons anges et ce qu'ils ont été toujours par la suite. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites certainement au sujet des anges, qu'ils soient bons ou mauvais. Et comme je l'ai dit, je le répète, dans les ouvrages à la fin, vous saurez les découvrir. Dans ce qui va suivre, après la période de questions et la pause, nous allons apporter ou chercher d'apporter certaines, en fait, des réponses à certaines questions que les chrétiens se posent parfois au sujet du monde invisible. Mais avant d'aller plus loin, donc j'arrête le partage et puis je remets la parole à Marco, plutôt à Nathanaël, oui, pour les questions.
Oui, merci Gilles. Donc, on va profiter de prendre quelques questions qui ont été posées au moyen de l'onglet Q&R que vous trouvez en bas de votre écran au centre. Et puis, une question laquelle tu as abordé, mais relativement rapidement. Si les anges sont plus intelligents et sages et constamment en présence de Dieu, comment expliquer qu'ils aient péché?
Ah, je ne peux pas expliquer ça, je n'ai aucune idée. Mais il ne fait aucun doute qu'ils avaient accès à une connaissance beaucoup plus grande, puisque voilà, ils sont en contact direct avec Dieu, ils avaient accès à son royaume. Ils ont toujours accès, d'ailleurs, on va répondre à cette question un peu plus tard. Mais voilà, c'est inexplicable, en fait. On est un peu désarmé devant la révolte du diable contre Dieu. Comment on peut se révolter contre un Dieu juste quand on a accès à toute cette révélation, toute cette connaissance de Dieu? Alors, désolé, je n'ai aucune réponse à cela, mais la Bible nous montre, en fait, qu'ils ont une connaissance immense. Et puis, voilà, c'est ce qu'on peut dire.
Une autre question intéressante, puisque tu as utilisé la Genèse pour ségréguer un peu les différentes périodes par rapport à l'activité des anges. Genèse 1, verset 2 nous dit que la terre était désolation et vide. Que penser de ces termes par rapport à l'activité de Satan?
Il y a une théorie qui s'appelle Tohu Vavohu. En fait, c'est les mots informes et vides en hébreu. Tohu Bohu, si vous voulez. Là, on a déjà entendu cette expression. Et puis, certains commentateurs ou exégètes du passé ont pensé que cet état de désolation et destruction, parce que les mots peuvent avoir, le mot désolation peut même avoir le sens de destruction, et certains ont présumé que c'était conséquemment la chute de Satan sur la terre. Donc, que Dieu aurait créé et que Satan, en étant précipité sur la terre suite à la création, qu'il a tout bousillé et que finalement, par la suite, Dieu rénove ou répare sa création et va lui donner une forme puisque Satan l'a bousillé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de support biblique pour aller dans ce sens-là. C'est d'aller beaucoup trop loin. Et parce que j'ai fait de la poterie, j'ai une autre explication. J'ai pas l'air de ça, mais j'ai suivi toutes sortes de cours quand j'étais gamin. Puis
J'aurais bien voulu voir ça.
j'ai même fait un cours de poterie d'argile. Et puis, je me rappellerai toujours quand j'avais 12 ans que j'ai commencé ce cours, on sortait une masse d'argile qu'on déposait sur le tour. Et puis, c'était tout croche, c'était informe et vide. Il n'y avait rien là-dessus. Et puis, dans l'heure qui suivait, je commençais déjà à former une boule de tout ça. Et puis, je formais des vases, des trucs, et je donnais une forme. Alors, on voit très clairement que Dieu n'a pas fait la terre d'un seul coup avec tout ce qu'elle comporte. Il l'a modelée, il l'a façonnée, il l'a développée et je trouve que c'est magnifique parce que Dieu est un potier et il fait très bien les choses et il le fait aussi dans la création. Donc, à mon sens, informe et vide dans la Genèse n'est pas la conséquence d'une soi-disant chute du diable sur la terre qui aurait tout bousillé et que Dieu aurait réparé par la suite, mais c'est simplement dans le processus de la création de Dieu.
Merci. Et puis on va terminer par une dernière question. Il y en a plusieurs encore, mais on va prendre celle-ci. En Luc 24, versets 39 à 41, Jésus justifie le fait qu'il n'est pas un esprit en montrant son corps et en mangeant. Et puis il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Pourtant, des anges dans l'Ancien Testament semblaient manger et passer inaperçus comme de vrais êtres humains. Une idée pour comprendre cette difficulté est affirmer que Jésus avait vraiment un corps ressuscité.
Il faut tenir compte que ce sont deux contextes différents avec deux buts différents aussi. Le but du Seigneur était clairement de montrer la réalité d'un corps ressuscité et glorifié. Et donc aussi de rassurer les disciples qu'ils n'étaient pas en présence d'un fantôme ou d'une apparition spirituelle, mais franchement, c'était vraiment de leur prouver, de leur démontrer qu'il était là. Dans un corps glorifié et ouais, tout à fait nouveau, quoi. Alors, avec ce corps, Jésus a pu manger, a pu être touché, etc. Donc, le but du Seigneur en disant cela était de leur prouver qu'il était réel devant eux et que ce n'était pas une vision et que c'était, voilà, c'est une preuve de sa résurrection, de son corps glorifié. Tandis que les anges, ils reçoivent une permission temporaire parce qu'ils ont une activité temporaire parmi les hommes. Et puis, même s'ils ont mangé avec Abraham, ils n'étaient pas là pour faire un festin, ils n'étaient pas venus souper avec, hein. Ils sont restés parce qu'il a insisté, ils ont accepté son hospitalité, ils se sont rapprochés de lui en faisant cela, et donc ça a permis à Abraham de découvrir et de constater que c'est Dieu en fait qui commençait une œuvre bientôt. Donc, le but n'est pas le même et la situation n'est pas exactement la même, même si on a des points qui se relient. Alors, la question était compliquée, j'espère avoir bien répondu.
Je pense que oui, et puis si jamais, ben, son auteur peut toujours revenir. Et allez, j'ai dit qu'on terminait, mais il y a quand même encore deux, trois choses qui me semblent intéressantes. Il faut qu'on avance aussi dans ces questions. Ça nous aide à préciser certaines choses. Pourquoi insister finalement sur le moment de la révolte de Satan? Qu'est-ce que ça change si ça a eu lieu à ce moment-là ou avant la création?
Oh, c'est probablement pas nécessaire d'insister tant que ça, mais ça vaut quand même, ça a son importance de comprendre le développement de la révélation progressive de Dieu. Je pense que c'est important de le comprendre aussi pour saisir pleinement la notion du péché qui par la suite va entrer dans l'humanité. Donc, c'est important qu'on sache que le péché tire son origine du ciel. Donc, le moment précis dans le ciel, je l'ai même dit d'ailleurs dans mon exposé. On ne sait pas exactement à quel moment, mais on peut très bien se figurer une plage horaire ou un agenda approximatif, c'est-à-dire entre Genèse 2 et 3. Voilà. Et puis, c'est aussi pour contribuer à notre compréhension que la parole de Dieu est juste dans les détails qu'elle nous donne. Si elle nous dit que des anges se sont réjouis à la création, et pas des anges de manière sélective, mais les anges en général, ben, on comprend bien que c'est après la création que la révolte est arrivée. Voilà. Ça nous donne une meilleure vision globale du développement de la révélation progressive.
Merci beaucoup Gilles pour cette réponse. Merci à vous tous pour vos questions. Donc les questions auxquelles il ne sera pas forcément répondu ce soir durant cette session feront l'objet de réponses et que vous recevrez lors d'un email qui sera envoyé à tous les participants inscrits au cours. Et puis sur ce, je vous proposais qu'on puisse prendre quelques minutes de pause avant de passer à la deuxième partie de cet exposé. Et je propose, les montres suisses sont normalement exactes, de se retrouver à 21h14 pour la suite. À bientôt.
Merci à toutes.